Un colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
L'Académie des sciences morales et politiques avait la responsabilité d'organiser la célébration du centenaire de la loi 1905. Elle a décliné ces célébrations sous la forme de 4 colloques sur le thème de la séparation des églises et de l'État. Pas moins de 150 intervenants d'horizons très variés ont contribué ainsi à la richesse de ces journées. Des sélections de ces très nombreuses interventions sont d'ailleurs disponibles sur le site internet de Canal Académie. Voici les conclusions proposées par l'Académie lors de la séance de clôture. L'historien et académicien Jean Tullard était le premier à prendre la parole. Il a proposé un éclairage historique de la séparation des Églises et de l'État. Nous l'écoutons.
C'est en 1795 qu'eut lieu la première séparation de l'Église et de l'État. La République ne salarie aucun culte, affirmaient les thermidoriens, sous l'influence des idéologues qui allaient former la classe des sciences morales et politiques au sein de l'Institut nouvellement créé en cette année 1795. Cette séparation signifiait l'abandon de la constitution civile du clergé instituée par l'Assemblée constituante et qui fonctionnarisait, si l'on me permet ce terme, le clergé catholique. Dans son souci de réconciliation, Bonaparte, qui n'a pas fait que rétablir l'esclavage, signe le concordat avec Rome, rédige les articles organiques pour les protestants et convoque un grand sanhédrin pour les juifs. L'évolution politique de la France aboutit un siècle plus tard au terme de 48 séances du 21 mars au 3 juillet 1905, à l'élaboration de la loi de séparation des Églises et de l'État, qui en revient dans un contexte différent à 1795. Même si, officiellement, la révision de la loi de 1905 n'est plus à l'ordre du jour, il faut tenir compte de l'apparition de l'islam dans notre paysage national, conservant ainsi au débat toute son actualité.
Après cette brève introduction de Jean Tullard, l'académicien André Damien a brossé à son tour un rappel historique du contexte de la loi de 1905 et sa vision de la loi aujourd'hui.
Dans le chant 11 de l'Odyssée, Homère raconte comment Ulysse, suivant le conseil de la déesse magicienne Circé, se rendit au bord de l'océan et, creusant de son épée un fossé dans le sol, y fit surgir de l'outre-tombe les âmes des morts. Il put ainsi interroger Agamemnon, Achille, Patrocle, tant de héros de la guerre de Troie qui vinrent s'asseoir avec lui pour le faire profiter des leçons du passé et l'éclairer sur les actes qu'il devait accomplir. Eh bien, c'est exactement la même démarche que nous avons tentée sur la demande des deux premiers ministres qui se sont succédés, c'est-à-dire évoquer les mannes de ceux qui furent les pères de la loi de 1905. Tâche d'autant plus difficile qu'une bonne part d'entre eux ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Et donc, ils pensaient qu'il n'y avait plus rien qui subsistait ici. Il y a heureusement les travaux de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés et du Sénat, c'est-à-dire l'analytique et les débats. Et c'est ainsi qu'on arrive à retrouver à peu près ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont voulu. Mais commencer en 1905, ce serait peut-être un peu immédiat. Il faut commencer un peu plus haut. J'ai envie de commencer vers Clovis, si vous m'y autorisez. Ça nous donne un peu de temps. Et d'abord, sur ce mot laïcité. Que veut dire laïcité? Ben, ça vient, comme vous le savez tous, d'un mot grec qui est laos. Mais laos a le sens du peuple indifférencié, par opposition à démos, qui est le peuple représentatif. Mais les Septantes adoptent laos pour désigner le peuple de Dieu. Alors, je ne peux pas être plus royaliste que les Septantes, et donc nous prenons laos dans ce sens, c'est-à-dire laïcité. Laïcité, c'est tout ce qui traduit le peuple de Dieu en marche vers le salut peut-être, mais la connaissance sûrement. Les premiers chrétiens ont adopté ce mot laos et ont adopté un autre mot qui est laïcus, mot dangereux, puisqu'il distingue dans l'Église deux catégories, les clercs et les laïcs. Les laïcs étant pour d'aucuns. Mais ce n'est pas vrai, heureusement, depuis tous les textes pontificaux sur les laïcs, étant un peu le tiers-ordre de l'Église, ou plus exactement, le prolétariat de l'Église. Pas du tout. Ils ont un sacerdoce qui appartient également aux laïcs, le sacerdoce royal et prophétique du laïc que le père Dabin a étudié avec tant de talent dans un livre que vous avez tous lu et qui vous a profondément marqué. Donc nous avons un couple sémantique, clair-laïque, né au sein du christianisme et qui n'a pas encore de dimension politique. Mais ça vient vite, car à partir de Constantin, puisque les gouvernants de l'Empire sont devenus chrétiens, ce sont des laïcs qui gouvernent l'Église, par l'intermédiaire des clercs qui ont le pouvoir d'ordre. Mais le pouvoir de juridiction s'efface un peu au profit des empereurs qui savent à la fois commander et beaucoup de conciles et définitions théologiques doivent plus à l'empereur qu'au sacerdoce. Alors, seul le spirituel, aux yeux des clercs, détient la clé du salut. Il est donc premier. Ainsi naît la chrétienté, principe d'unité sacrale qui fait collaborer le religieux et le politique. Ils sont distingués, mais non séparés. Alors, Clovis, dont je parlais, est un personnage central de l'histoire de France, dans la mesure où, par son mariage avec Clotilde, il a fait rallier tous les Francs à l'Église de Rome, alors que les parents de Clovis étaient des Visigoths, donc monophysites, ce qui, effectivement, nous aurait fait tomber dans l'arianisme, qui était une sorte de capitulation de l'Église devant l'État. Grâce à Clovis, eh bien, nous avons pu nous en sortir et avoir une Église qui soit romaine, autonome et qui puisse enseigner des choses véritables. Et le roi a été proclamé fils aîné de l'Église. Le roi, c'est Clovis et ses successeurs. Le mot « la France, fille aînée de l'Église » est extrêmement tardif et d'un emploi, j'allais dire, presque irrégulier. Le premier qui l'emploie, c'est Pie IX, au moment où les troupes du général de la Morissière viennent le sauver des risques que courait son gouvernement à cause des bandes de Garibaldi. Donc à ce moment-là, la France, qui a donné un contingent, comme elle en donne souvent à des peuples qui cherchent la liberté, est devenue fille aînée de l'Église. Le deuxième qui l'emploie, plus tard, mais avec beaucoup plus de raison, c'est Léon XIII, au moment du ralliement. Il proclame que la France est la fille aînée de l'Église et qu'en tant que telle, elle doit faire un petit effort pour bien mériter ce titre qu'on lui a donné. On peut dire que l'Église française, l'Église en France, est gallicane par essence pendant des siècles. Et notamment, elle s'arroge le droit de faire la leçon au pape. La métaphore du coq Gallus identifie le coq gaulois avec celui qui chanta la veille de la Passion, conduisant Saint-Pierre aux larmes et à la pénitence. La vocation de la France, pour les canonistes et les théologiens français, est de faire pleurer le successeur de Saint-Pierre sur ses faiblesses et ses errements pour le ramener vers la foi authentique, c'est-à-dire la foi gallicane. Car l'Église en France a été gallicane pendant des siècles. Au XVIe siècle, c'est la force du gallicanisme qui a maintenu dans le giron romain une France dont une forte partie se refusait à la réforme. Si Henri IV a pu diviser la France en deux, entre les réformés et les catholiques romains, se faire sacrer à Chartres, c'est pour la première fois et la dernière. Chartres n'a jamais eu d'autre sacre que celui d'Henri IV. Et s'il a pu faire l'édit de Nantes, qui est si important sur le plan politique et que vous avez étudié avec beaucoup de finesse et d'attention, monsieur le ministre, c'est uniquement parce que l'État s'affirme comme seul garant de la concorde religieuse. Il est possible d'être sujet du roi sans être catholique. Mais la tolérance qui est concédée aux protestants n'est ni la liberté ni l'égalité. Elle est garantie par des places fortes qui, pour un roi aussi attentif que Louis XIV, paraissent un peu irritantes quant à son pouvoir de domination, d'où la révocation d'Édith de Nantes, ô funeste révocation, mais elle a existé, nous sommes bien obligés de l'enregistrer comme un fait historique, même si nous déplorons les excès de passion qu'elle a pu entraîner. Avec la Révolution, la France entre dans la véritable histoire de la laïcité. La nuit du 4 août, pose le principe d'égalité de tous devant le droit. Il n'y a plus en France qu'une seule communauté, la nation. La Déclaration des droits de l'homme y ajoute la liberté de toutes les opinions, même religieuses. Ce même est d'ailleurs plein de charme. Mais si la Révolution a posé des principes décisifs, elle a échoué dans toutes ses politiques religieuses. La première, qui était audacieuse, mais qui n'était pas l'ébauche d'un schisme, était la constitution civile du clergé, c'est-à-dire le droit pour la nation qui avait reconquis le pouvoir jusque-là donné au roi, d'élire les évêques et de fixer les circonscriptions ecclésiastiques. Cela paraissait nouveau, encore que, en Allemagne, depuis longtemps, les chapitres proposaient au pape trois noms parmi lesquels le pape institue un évêque. Donc le principe n'était pas totalement vicieux, même s'il était audacieux, et les cardinaux français, même les bons, c'est-à-dire tous, sauf Loménie de Brienne et Maury, qui étaient à Rome, ont accepté et suggéré à Louis XVI d'accepter ce système. Mais le bref Quod Alicantum est sorti, publié par le pape Pie VI, qui a créé deux catégories, les jureurs et les insermentés. Et ce fut le drame, car chacun a excommunié l'autre. La proportion est de 50-50, plus exactement 51 insermentés et 49 de jureurs. D'ailleurs, c'est la proportion qu'on trouve dans la plupart des évêchés. Quand l'évêque a résisté, le clergé l'a suivi. Quand l'évêque s'est soumis comme l'homélie de Brienne, le 80% du clergé sont devenus jureurs. Et finalement, on va arriver très facilement, avec le libéralisme qui caractérise les Français de l'époque, à la persécution religieuse, qui va d'abord s'étendre aux insermentés, qui seront les victimes des massacres de septembre, mais par une contagion naturelle, va s'abattre sur les jureurs, et c'est pourquoi l'abbé Grégoire, qui a refusé de déposer sa crosse, sa mitre et son anneau à la tribune de l'Assemblée, malgré les cris de la foule et des tricoteuses, est à mon avis, même si l'Église n'a pas encore reconnu, un confesseur de la foi, original certes. Je ne demande pas qu'il soit encore sur les autels, je ne profiterai pas de ces circonstances pour faire ce genre de proposition, mais l'abbé Grégoire est quand même un sacré bonhomme d'avoir su résister à une époque où la résistance était assez rare. Et finalement, la déchristianisation après la terreur n'a pas parvenu à ses fins, et la première séparation de l'Église en 1995 échoue totalement. Alors que faire ? Eh bien, Bonaparte arrive au pouvoir. C'est un concret, un réaliste. Il a un petit peu de foi, peut-être, parce qu'il est corse, et que dans les traditions corses, il a puisé cette croyance à une Église salvatrice. Mais le résultat est qu'il est un réaliste, et il renonce à créer une Église nationale schismatique, dans la mesure où Rome cède à son concordat, et malheureusement aux articles organiques qui n'avaient pas été soumis à Rome et qui faisaient des évêques, des préfets violets, V-I-O-L-E-T-S. Voilà. Alors, Napoléon étant aux quatre cultes pratiqués en France, les plus importants, le régime concordataire, avec ses faveurs et ses contraintes, les cultes reconnus qui survivra jusqu'en 1905, à un culte pluraliste. Et c'est ce qu'Aristide Briand nomme une demi-laïcité. Et je crois que l'analyse est fine, comme beaucoup de choses chez Briand. Alors, les Juifs et les protestants y sont intégrés. Les problèmes ne viennent pas des minorités, mais de la majorité. En 1848, là c'est l'union sacrée autour des évêques et des prêtres, puisque c'est très sentimental, la Deuxième République, et l'on fait sortir le goupillon pour bénir les arbres de la liberté. Et Victor Hugo proclame, le premier arbre de la liberté a été planté il y a 20 siècles, et sur le Golgotha. Mais 2 ans après, converti à nouveau, dans un autre sens, il est l'adversaire le plus acharné de la loi Falloux, qui avait pour but d'organiser la liberté de l'enseignement, et notamment à l'avantage du catholicisme. La guerre de 70 fait surgir brutalement la question de fond qui ne sera tranchée qu'en 1905. Il ne s'agit pas seulement des rapports entre l'Église et l'État. Le véritable enjeu est l'identité de la nation. Est-elle encore chrétienne ou ne l'est-elle pas ? Et alors pour les catholiques, le redressement national après l'humiliante défaite face à la Prusse, ne peut se faire que par le retour de la nation vers ses racines, c'est-à-dire son identité catholique. C'est le sentiment du cardinal Pie, évêque de Poitiers, c'est le sentiment de Monsieur Dupanloup, le célèbre prélat, et c'est l'esprit qui va animer la basilique du vœu national du Sacré-Cœur de Montmartre. C'est l'esprit de revanche. Revenons à nos origines chrétiennes et nous retrouverons la domination de l'Europe cassée un instant où on ne s'était pas assez préoccupé par la Prusse triomphante suivie par les autres royaumes allemands. Donc, c'est les républicains. La France moderne est la fille de la Révolution. Elle n'est pas la fille née de l'Église. Alors, la séparation figure au programme des Républicains depuis 1869. Aucun gouvernement n'a osé s'y aventurer. Et ils ont bien raison. Et notamment, un certain nombre, Dumay notamment, le directeur des cultes, qui est un homme de grand talent, dit « N'est-il pas dangereux de donner la liberté à ces catholiques inféodés à Rome ? Est-ce que le système actuel de ces évêques préfets n'est pas bien meilleur pour l'État ? Il a raison !» d'un point de vue de fonctionnaire zélé. Il a tort du point de vue des libertés. Et finalement, il reprend l'avis des libéraux, c'est-à-dire Lacordaire, Montalembert et même l'ex-abbé de Labney, qui avait exactement les mêmes positions. Alors, le drame qui va se réaliser, c'est que on part vers la loi de séparation parce qu'on n'a pas le choix. La pression de la gauche à l'époque est telle qu'un gouvernement vraiment républicain doit passer par une séparation dont on craint les conséquences et les effets. Et finalement, c'est la séparation annoncée par Combes dans son discours d'Auxerre du 4 septembre, date anniversaire 1904. Et il y a deux séparations possibles. La séparation Combes, c'est... L'État doit permettre aux citoyens de s'émanciper de la religion. La séparation doit être anti-religieuse. Et je dis que Combes, qui paraît pour un suppôt de Satan aux yeux de beaucoup, comme un homme politique borné et vraiment limité dans ses pensées, a acquis à mes yeux une sympathie particulière à cause des lettres d'amour qu'il, si charmantes, si touchantes, si timides, si fraîches, qu'il envoyait à la princesse Bibesco, la prieure du Carmel d'Alger. Nous avons les lettres de la prieure, nous n'avons pas les réponses de Combes. Alors un historien, M. Beaubéreau, a fabriqué un livre qui vient de sortir, dans lequel il a imaginé les lettres que Combes pouvait envoyer à la princesse Bibesco, qui sont charmantes. Et... Enfin, passons. Enfin, c'est très fleur bleue, hein. Et quand on voit Combes fleur bleue, c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement. On a l'impression de trouver plutôt un homme de village, épais et buté dans ses convictions. C'est pas ça. Il était plus compliqué qu'on ne le pense, ce qui fait quand même son charme et sa richesse. Alors, à côté de cette séparation qui doit être anti-religieuse pour Combes, une voix s'élève d'un de nos éminents confrères, à la fois du barreau et de l'académie, c'est Poincaré. Académicien avant d'être président de la République. Et Poincaré dit « La séparation sera libérale ou elle ne sera pas. » Je veux dire par là, c'est Poincaré qui parle, que l'État, tout en maintenant sa suprématie, doit garantir loyalement aux citoyens l'exercice des religions qu'ils ont choisies. S'il manquait à cette obligation primordiale, la séparation ne serait qu'une réforme avortée, elle deviendrait le signal d'une large guerre civile qui risquerait de finir par une réaction formidable. Elle ferait regretter le Concordat. Alors, le projet Combes n'a jamais été discuté tel quel, puisque ce pauvre Combes, l'amoureux transi de la princesse Bibesco, a eu la mauvaise idée de couvrir de son autorité l'affaire des fiches. Les fiches, je vous le rappelle, c'était des fiches sur les officiers qui étaient fournies par certaines loges. Le système a été révélé par un nommé Bideguin, qui a révélé la situation. Et notamment, dans certaines fiches, on avait des mentions qui faisaient frémir la partie honnête des Français qui croyaient à l'avancement au mérite. Il y avait notamment ces mots mystérieux, VLM, en face du nom d'un officier. Que veut dire VLM ? Va à la messe. Mais il y a pire, il y a VLM AL, Que veut dire ce sigle étrange ? Va à la messe avec un livre. Ça, c'était l'abomination de la désolation, rendant incapable de commander un régiment sérieux. Alors, Combes a donc quitté le pouvoir volontairement à cause de cette affaire en janvier 1905. L'affaire avait été terminée d'une manière rarissime à la Chambre des députés, puisqu'un député, Siveton, était venu au banc des ministres sans que les huissiers puissent l'empêcher. Il avait l'air paisible et il avait souffleté, comme on dit dans l'analytique, le général André. En réalité, il n'avait pas souffleté, il avait cassé son râtelier. Et le général André l'avait fort mal digéré. Je crois qu'on a dû aller sur le pré, et puis l'affaire entraînait l'obligation pour Combes de se démettre et non de se soumettre. Et est arrivé le président de la commission parlementaire de la Chambre, c'était Aristide Briand. Aristide Briand, c'est ce que Louis Méjean, le protestant si spécialiste des cultes, appelle le miracle Briand. Ce que j'appellerais, en étant anachronique, la divine surprise. On pensait à un homme anticlérical, il l'était, franc-maçon, il l'était, appartenant à une loge. Il avait été même envoyé pour représenter les étudiants aux funérailles de Victor Hugo. Vous voyez le côté ouvert de ce bon Aristide Briand. Et dès qu'il arrive à la commission, il est l'homme de la conciliation et de la paix. Il est l'homme de la conciliation, non pas par une conviction personnelle. On a essayé d'en faire un chrétien au moment de sa mort, comme cela arrive souvent dans les récits pieux. Passons. C'est là où on parle, mais Jean en parle d'une part, mais Barrès en parle aussi, de la voix de violoncelle, dans laquelle il arrivait à entraîner les gens par une facilité, une souplesse d'argumentation, un espèce de charme qui opérait sur les foules parlementaires et les autres d'ailleurs, et qui entraînait à cette séparation, cette loi de séparation relativement paisible qui nous a obtenus. Il n'était pas seul, il a été aidé par Jaurès, il ne faut pas l'oublier, qui, avec ce cœur généreux qu'avait Jaurès et que j'ai retrouvé dans l'attitude qu'a Jaurès au moment de l'affaire Dreyfus, quand Dreyfus accepte la grâce, tous les Dreyfusards se détournent de lui. Il devient vraiment le traître, celui qui accepte la grâce du président de la République pour ne pas retourner en prison. Il n'y a qu'un homme qui lui tend une main secourable, c'est Jaurès, en disant « il a assez souffert pour qu'on le laisse en paix ». Donc, il y a un cœur chez Jaurès, et ce cœur va jouer. Il ne veut pas que les catholiques soient persécutés, chassés de leurs églises par des gendarmes, ou etc. Et c'est l'article 4 qui va permettre, de la loi de 1905, qui va permettre de laisser les catholiques en paix sous l'autorité pastorale et ferme des prêtres de la religion de laquelle ils se réclament. Alors, je pense que c'est là où on a réussi véritablement à avoir une paix positive. Mais, soyons honnêtes, pour autant, le fossé en France est profond. D'une part, tout le monde était mécontent de la loi 1905. Les catholiques d'abord, qui se sont sentis persécutés. À propos des inventaires, on a parlé de l'impie Héliodore. Celui qui étant pénétré dans le temple de Jérusalem avait été fouetté par des anges invisibles mais efficaces. Et les républicains, les laïcs, ont été déçus qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout. Ils ont trouvé que, et notamment ils ont pesté contre Briand à cette époque-là, c'est une victoire inachevée. On aurait pu aller beaucoup plus loin puisqu'on avait la majorité. Mais Briand ne l'a pas voulu et a préféré, tout en s'expliquant fermement devant ses partisans, a préféré une loi de conciliation plutôt qu'une loi extrêmement vigoureuse. Alors, la loi de 1905 portait en elle les prémices d'une loi d'apaisement. À partir de l'article 4, il y avait quelque chose à tirer. Vous savez que par l'encyclique Gracilissimo Officii, les cultuelles n'ont pas été admises par l'Église catholique. Je vous donne un détail qui sort des carnets du cardinal Baudrillard, auquel je ne peux que vous renvoyer, car c'est une lecture de soirée. Le livre est un peu lourd, mais c'est une lecture merveilleuse. C'est bourré d'esprit d'anecdotes. Le pape Pie X avait créé une commission cardinaliste pour lui donner son avis sur le caractère régulier des cultuels. Eh bien, les cardinaux sont prononcés par 5 voix contre 4. C'est assez faible. Et finalement, le cardinal Gasparri, qui n'était pas encore cardinal, avait dit que la cultuelle était parfaitement compatible avec la divine constitution de l'Église, et c'est la raison pour laquelle il a, quelques années après, en 21-23, on a admis les diocésaines qui ont été admises après le vote du Conseil d'État et l'encyclique Maximam Gravissimam Quae qui les libéralise totalement. Alors, ce qui est dramatique, c'est cette césure qui s'est produite en France à l'époque de 1903-1906-7. Et je crois que notre confrère Amouroux, avec sa finesse coutumière, dans son ouvrage qui est paru il y a quelques jours sur les racines de Vichy, a consacré un chapitre entier, le 16e, qu'il a intitulé « Connaître 1903 pour comprendre 1940 ». Et cela me paraît une des analyses les plus fines qu'on ait faites. Beaucoup d'aspects de la Révolution nationale, notamment en ce qui concerne les Juifs et les maçons et l'anticléricalisme, sont nés en 1903-1905 et ne sont pas nés après. C'est un courant qui stagnait souterrain et qui s'est déployé à partir de la loi de séparation. Donc son importance est très grande et il faudra attendre la guerre pour que l'union sacrée ayant existé, l'influence bénéfique de Poincaré, de Briand, du cardinal Ceretti, pas encore cardinal d'ailleurs, du cardinal Gasparri, ait permis le modus vivendi de 21-23 qui va donner la paix à l'Église de France et à l'Église universelle dont la France est une partie importante sur le plan de la pensée. Ce qui fait que des propos comme ceux que Viviani tenait le 8 novembre 1906, nous avons arraché la conscience humaine à la croyance, lorsqu'un misérable fatigué du poids du jour ployait les genoux, nous l'avons relevé, nous lui avons dit que derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble, et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on n'y rallumera plus. Ça, c'est du Viviani, qui n'était pas un excité, qui était un homme raisonnable, mais qui s'est totalement trompé, car il n'y a jamais eu tant de pratiques religieuses qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit seulement dans l'Église catholique romaine, mais dans cette espèce d'efflorescence de pratiques religieuses et de foi que nous trouvons partout, dans les sectes, dans l'islam et dans toute une série d'éléments. Et je dois dire que l'homme qui a le mieux défini la politique de cette époque, c'est mon cher Anatole France, qui a écrit des textes excessifs et stupides dans cette époque, mais qui a écrit un texte admirable dans l'Orme du Mail. Monsieur Bergeret est assis sous les ormes avec l'abbé Lanteigne. Et il lui dit cette phrase que j'aime à citer, qui est pleine de vérité. « J'ai été nourri sous l'Empire dans l'amour de la République. Elle est la justice, me disait mon père, professeur de rhétorique au lycée de Saint-Omer. Il ne la connaissait pas. Elle n'est pas la justice. » Elle est la facilité. Et je crois que c'est ça qui fait que la séparation a été juste dans ses applications plus tardives, grâce au Conseil d'État, qui a été merveilleux à l'époque pour adapter la jurisprudence et tirer, j'allais dire, jusqu'à l'extrême de ces textes. Mais elle est la facilité en ce sens qu'elle est devenue le régime de séparation qui divise le moins les Français. Et c'est très important. Mais cette loi ne peut pas être prise isolément. Elle est une loi qui a établi un régime de neutralité que nous devons continuer à respecter aujourd'hui. Alors, la loi de 1905 est une loi de circonstance, comme souvent en France. Elle répondait à un anticléricalisme peut-être partiellement justifié, mais qui a suscité chez d'aucuns une volonté de détruire l'Église catholique, loi amodiée peu à peu par le Conseil d'État. L'opinion publique, les lois successives, les circulaires et les décrets ont contribué à ces changements de l'esprit de la loi. Cette loi n'est-elle pas aujourd'hui un peu usée? Ou comme un couteau, a-t-elle pas perdu son fil? Est-elle capable de répondre aux problèmes du monde moderne, notamment à celui des sectes ou à celui de l'islam? La privatisation de la religion est-elle un principe qui puisse survivre à notre époque moderne? L'impartialité de l'État est mise en cause, en tout cas mise en doute, par un certain nombre de groupes religieux minoritaires qui se plaignent de leur position légale, qu'ils estiment moins avantageuse que celle des autres communautés religieuses et qui n'ont pas tort sur des points très précis pour qu'on puisse changer le mot « exclusivement » par un mot « principalement ». Mais ça, c'est à la jurisprudence de contra legem, c'est la meilleure. Pourquoi respecter la loi quand on est le pouvoir de la justice? C'est ce que nous voyons tous les jours, dans certains endroits. Mais le Conseil d'État, avec un art absolu, s'est interprété contra legem, et c'est bien meilleur ainsi. Du moins que c'est bon pour la République. D'où une crise de la laïcité française et même occidentale, la laïcité française étant le modèle sur lequel la plupart des nations européennes se sont alignées, ou tout au moins dont elles se sont inspirées. Récemment, un de nos confrères anglais, épris du charme de l'Angleterre, nous disait « Vous vantez votre modèle français, mais le modèle britannique est tellement meilleur !» Et quelqu'un lui a répondu « Oui, mais... dans le modèle britannique, je ne peux pas être roi ni reine d'Angleterre, puisqu'il faut être anglican. Il y a donc encore une restriction dans ce pays de liberté, qui est que la reine doit appartenir à l'Église établie, et c'est fort gênant quand on n'en fait pas partie et qu'on a des prétentions à devenir roi d'Angleterre. Une loi de circonstance, fruit d'un combat entre le courant de la pensée laïque et d'une Église qui refusait, dans une certaine mesure, le monde moderne, est devenue un principe fondamental de l'État qui a pris une valeur constitutionnelle. Mais actuellement, on peut se demander si le roi n'est pas nu, c'est-à-dire dépourvu des moyens d'action. Y a-t-il une solution, un modèle religieux postmoderne? Quel est l'avenir de l'État séculier dans le nouveau millénaire? L'État doit-il sortir de ses principes de la privatisation du phénomène religieux pour s'adapter aux mentalités religieuses et pour s'attacher au problème de la résistance que certaines communautés religieuses opposent à une loi qu'elles estiment injuste. C'est tout le problème de la loi juste et de la résistance au nom de la foi à certaines lois. On les a vues naître, mais c'est jamais des questions agréables pour l'État. Elles sont peut-être pas agréables pour les fidèles, mais elles sont encore moins agréables pour l'État. Quelle est la marge de tolérance qui doit être pratiquée en tenant compte du contexte nouveau? Les anticlérismes latents qui existaient en France avant 14 ont diminué, laissant place à une montée de l'athéisme et cette tolérance un peu lâche à l'égard de tout ce qui caractérise notre société moderne. La conclusion paraît s'imposer. Ne rien changer à ce passé millénaire, actualisé à la hâte en 1905 et dont l'actualisation a failli susciter une révolution dont seule la sagesse des politiques et l'aide des juristes a fini par dégager la France. Pas de loi nouvelle en matière religieuse, mais des modifications législatives discrètes, du toilettage, utiles, par voie réglementaire, si l'on peut, et par voie de circulaire ou de décision du Conseil d'État, si l'on préfère. On arriverait ainsi à une permanence de la loi de 1901 qui a été, je le signale, modifiée 9 fois. Elle n'est pas l'étape de la loi, elle a déjà été modifiée 9 fois. La France est un pays trop fragile dans ses opinions, trop susceptible dans ses oppositions pour qu'on puisse se payer le luxe de modifier ce qui n'est pas indispensable pour la survie de l'État et surtout dans des conditions hâtives et passionnées qui ne satisferaient personne. Je vous remercie.
C'était André Damien, vice-président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2005 et président pour l'année 2006. Après ce retour historique sur la loi 1905, Raymond Boudon, sociologue et membre de l'Académie, était invité à traiter du sujet suivant « Laïcité et modernité, les deux visions françaises ». Nous l'écoutons.
Si l'on a demandé à un sociologue de s'exprimer aujourd'hui, dans le cadre de cette séance sur la loi de 1905, c'est sans doute parce que lorsqu'on explore les soubassements intellectuels de la loi de 1905 et de l'histoire de la laïcité à la française, on repère sans difficulté l'influence des théories de la modernité élaborées par les sciences sociales françaises à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. En schématisant un peu, elles ont produit deux visions contrastées des relations entre laïcité et modernité. Celles qu'ont contribué à façonner Rousseau et Auguste Comte. et celle qu'ont proposée Tocqueville et Émile Durkheim. La première a été infiniment plus influente que la seconde. Mais la seconde apparaît aujourd'hui à la lumière de l'expérience plus juste. La première a fortement influencé la conception de la laïcité mise en œuvre par la Troisième République. La seconde annonce la forme de laïcité qui se développe aujourd'hui dans l'ensemble des pays occidentaux. La célèbre profession de foi du vicaire savoyard était censée, dans l'esprit de Rousseau, se substituer au sermon sur la montagne. Elle commence par un développement de caractère théologique. Si l'on venait me dire que des caractères d'imprimerie projetés au hasard ont donné l'énéide tout arrangé, je ne daignerais pas faire un pas pour aller vérifier ce mensonge. On ne peut, en d'autres termes, imaginer que le hasard ait produit des systèmes organisés que la nature nous donne à observer. Dans le jargon d'aujourd'hui, on dirait que Rousseau évoque ici l'hypothèse de l'intelligent design. Ainsi, selon Rousseau, loin d'écarter Dieu, la raison en démontre au contraire l'existence, mais la théologie du vicaire savoyard lui interdit d'aller plus loin et de spéculer sur la nature et la volonté de Dieu. Elle disqualifie donc les religions traditionnelles et appelle une religion nouvelle résolument agnostique, si j'ose dire, sauf sur trois points, l'existence de Dieu, l'autonomie de la volonté humaine et l'existence d'un sens moral commun à tous les hommes. Conscience, instinct divin, immortel et céleste voie. Rousseau devait influencer profondément la foi laïque de la Troisième République, à côté bien sûr de Diderot, d'Alembert, Voltaire ou Condorcet. Mais l'autre grande figure qui devait surtout impressionner le personnel politique de la Troisième République est celle d'Auguste Comte. Dans son cours de philosophie positive, il développe sa célèbre loi des trois états, laquelle annonce, si on la traduit en termes simples, que le règne de la science est voué à remplacer le règne de la religion. Ultérieurement, dans son système de philosophie positive, sous l'influence, dit-on, de la belle phtisique Clotilde de Vaux, il élabore une nouvelle religion, une religion d'amour, la religion positiviste. Mais la rupture entre le premier et le second Comte est, à vrai dire, moins marquée qu'on ne le croit souvent. Pénétré de l'idée que l'évolution conserve le passé tout en le dépassant, Comte s'est toujours vu lui-même comme le continuateur de Pascal, de Bossuet ou de Bonald, tout autant que de Montesquieu et Condorcet. Mais son principal disciple et vulgarisateur, Émile Littré, devait décider qu'il y avait deux Auguste Comte, le laudateur de la science et le fondateur de la religion positiviste. On devait vénérer le premier, on pouvait ignorer le second. Or, c'est à Émile Littré qu'Auguste Comte a dû son influence sur le personnel politique de la Troisième République, sur Gambetta, sur Jules Ferry ou sur Clémenceau. Sous l'influence de Littré, les fondateurs de la Troisième République tinrent le positivisme d'Auguste Comte, comme ils aimaient à le répéter, pour la plus grande philosophie du siècle. C'est sous le ministère d'Émile Combes que la statue d'Auguste Comte a été placé devant la façade de la chapelle de la Sorbonne, en lui tournant le dos. Tout le monde comprit que c'était le positivisme revu et corrigé par Littré qui était ainsi glorifié. En un mot, sous l'influence du conte de Littré sur les hommes politiques de la Troisième République, est née l'idée d'une religion républicaine, d'une religion séculière appelée à se substituer aux religions traditionnelles. Tocqueville a remarqué qu'à partir du XVIIIe siècle, les intellectuels ont eu en France une influence exceptionnelle et il a consacré à ce sujet des pages mémorables. En les rédigeant, il a certainement pensé aux philosophes des Lumières, mais probablement aussi à ses contemporains Auguste Comte et Littré, dont il n'est le cadet que de quelques années. Malheureusement, alors qu'Auguste Comte a exercé une influence immense sur la vie politique française, Tocqueville, lui, n'a jamais eu beaucoup d'influence. Malheureusement, car il a été infiniment clairvoyant sur bien des sujets, et certainement bien plus clairvoyant qu'Auguste Comte sur le sujet des relations entre religion, modernité et laïcité. Il a été un chaud partisan de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui l'a beaucoup gêné lorsque, nommé ministre des Affaires étrangères sous la Deuxième République, il a dû cautionner le soutien accordé au Vatican par le gouvernement français contre les nationalistes italiens. Mais jamais il n'a imaginé d'opposer une religion séculière aux religions traditionnelles. Selon Tocqueville, le christianisme des débuts doit son succès essentiellement à ce qu'il répond à la demande de tout être humain de voir sa dignité reconnue. Il a facilement prévalu contre les religions locales qui couvraient l'Empire romain parce qu'il n'évoque que des thèmes généraux, sans relation avec aucun contexte sociopolitique particulier. Il se préoccupe exclusivement de l'homme avec un grand H, de ses droits et de ses devoirs envers ses semblables et envers Dieu. C'est pourquoi il s'est facilement répandu. L'islam partage avec le christianisme, indique encore Tocqueville, la propriété de traiter exclusivement de l'homme, des rapports des hommes entre eux et des rapports des hommes avec Dieu, sans grande référence à aucun contexte social, ethnique ou politique particulier. C'est pourquoi, comme le christianisme, il pouvait être prêché partout et s'est lui aussi facilement répandu. Il a toutefois, ajoute Tocqueville, une profonde différence entre l'islam et le christianisme, à savoir que le message de l'islam fait dépendre les lois, l'organisation de l'État et l'interprétation du monde de la révélation. Cela a contribué à freiner la modernisation des sociétés islamiques, mais aussi à y consolider la foi. À l'inverse, la cause première du succès du christianisme était aussi porteuse du désenchantement du monde. Car, en affirmant l'égale dignité de tous les hommes, le christianisme a installé l'idée que chacun est habilité à juger de toute chose par lui-même. Cette idée a favorisé une attitude critique à l'égard des Écritures et donné un relief particulier à la notion de raison. Au XVIe siècle, Luther marque une étape décisive dans ce processus en concédant aux croyants le droit d'interpréter les textes sacrés et en gommant la distinction entre clercs et laïcs. Au XVIIe siècle, Descartes prend le relais de Luther, il installe la raison en majesté, mais ne va pas jusqu'à la laisser régner sans partage, comme on le voit au fait que lui-même prie régulièrement la Vierge Marie. Au XVIIIe siècle, avec Voltaire, la compétence critique de la raison s'étend finalement sans restriction à la totalité des idées religieuses. Tocqueville annonce donc bien que la modernité est voué à s'accompagner en Occident du désenchantement du monde. Mais, à la différence de Rousseau ou d'Auguste Comte, il repousse l'idée qu'elle puisse offrir un terrain favorable à l'installation d'une nouvelle religion. L'individualisme, l'esprit de libre examen sont trop développés dans les sociétés modernes pour que cette éventualité soit plausible. C'est pourquoi, à la différence ici encore de Rousseau, d'Auguste Comte et de leurs disciples, il est loin d'annoncer l'extinction des religions traditionnelles. Elles sont au contraire appelées à subsister dans les sociétés modernes, d'abord parce qu'aucune religion nouvelle ne saurait véhiculer les valeurs communes sans lesquelles il n'est pas de vie en société, surtout parce que le sentiment religieux repose tout simplement sur une donnée de fait, à savoir que l'être humain se distingue des autres espèces par le fait que ses actions lui sont inspirées, par l'idée qu'il se fait du bien et du mal, du vrai et du faux, du légitime et de l'illégitime, et des autres valeurs. Toutes les grandes religions ont en effet en commun, explique Tocqueville, de rappeler aux hommes, au moyen de symboles et de mythes, que l'homme est un être dont les actions lui sont inspirées par des valeurs. S'inspirant de Platon, il voit dans l'immortalité de l'âme le plus important de ses mythes. Mais si Tocqueville n'imagine pas que la modernité doive entraîner un effacement des croyances religieuses, il annonce leur éclatement. On tendra de plus en plus à considérer et à vivre les croyances religieuses comme des opinions, qu'il ne saurait être question d'imposer à autrui. En un mot, Tocqueville a correctement prévu le double phénomène de la pérennité des grandes religions traditionnelles et de l'éclatement des croyances religieuses dans le monde occidental. Il a prévu aussi la tendance de ses croyances à l'immanentisation. Déjà, lors de son voyage aux États-Unis, il constate que la religion chrétienne y est très vivace, mais aussi qu'elle est vue par les croyants comme une promesse de longue vie et de bonheur sur terre plutôt que de félicité dans l'au-delà. C'est pourquoi le protestantisme américain se marie sans aucune difficulté, explique-t-il, avec l'utilitarisme ambiant. Plus de 50 ans après Tocqueville, en un temps où la querelle de la laïcité bat son plein en France, Durkheim développe des idées proches des siennes. Pour Durkheim, la notion d'âme est universelle par-delà la diversité des mots qui la désignent, car elle exprime de façon symbolique le fait que l'être humain est le seul à se déterminer à partir de valeurs. L'homme a normalement l'impression que certaines valeurs s'imposent à lui, qu'elles ont vocation à être partagées par d'autres, qu'elles lui sont à la fois extérieures et intérieures, profondément constitutives de son moi et en même temps ayant une source extérieure à son moi. En conséquence de cette combinaison d'extériorité et de profonde intimité avec le moi, elle fonde dans son esprit l'idée d'un double immortel, l'idée de l'âme. Comme Tocqueville, Durkheim estime que le sens des valeurs qui caractérisent l'être humain est le fondement à la fois de la notion d'âme et du principe de l'égale dignité de tous. Sans doute ce principe est-il flou et par suite voué à recevoir des interprétations variables dans le temps et dans l'espace, mais il est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans les sociétés modernes et à s'imposer comme un repère moral fondamental, faisant preuve d'une prescience étonnante. Durkheim va même jusqu'à annoncer le développement d'un culte des droits de l'homme pouvant aller jusqu'à la superstition. Comme Tocqueville, Durkheim est agnostique. Mais il n'a que mépris pour ceux qui méconnaissent l'importance des religions traditionnelles dans les sociétés modernes. Il récuse violemment, je cite, « ceux qui veulent voir dans le catholique éclairé d'aujourd'hui une sorte de sauvage attardé ». Cette expression brutale, qui surgit inopinément au beau milieu du livre de caractère résolument scientifique qu'il publie en 1912 sur les formes élémentaires de la vie religieuse, témoigne éloquemment du climat du temps. Elle visait sans aucun doute dans son esprit quelques éminences politiques et intellectuelles engagées dans la querelle de la laïcité. Les analyses de Tocqueville et de Durkheim sont amplement confirmées par les données des enquêtes contemporaines les plus fiables. Lorsqu'on compare les sentiments religieux des générations actuelles, on observe à des degrés divers les mêmes tendances dans tous les pays occidentaux. La croyance en Dieu reste vivace, mais l'image de Dieu se fait de plus en plus incertaine d'une génération à la suivante. Bien des éléments du dogme chrétien sont traités de manière de plus en plus dubitative. Une proportion non négligeable de jeunes se sent attirée par celle des religions orientales qui promettent le bonheur ici-bas plutôt que dans la vie éternelle et qui accordent une place modeste au surnaturel. Les croyances religieuses tendent bien à revêtir le caractère d'opinion plus que de conviction, à être composées d'éléments hétéroclites, à être perçues comme de caractère privé. On tend de plus en plus à considérer indistinctement toutes les grandes religions comme valides et à en retenir surtout les grands principes moraux. Finalement, les théories proposées par Tocqueville et par Durkheim rendent bien mieux compte des évolutions qui se déploient sous nos yeux que celles de Rousseau ou de Comte. Ces théories expliquent aussi l'évolution que l'on observe aujourd'hui en matière de laïcité dans tous les pays occidentaux. Si le mot « laïcité » n'a pas de traduction stricte, par exemple en allemand ou en anglais, les notions de « sécularisation » ou de « sécularisme » recouvre largement la notion française de laïcité. Certes, l'histoire singulière des pays occidentaux a modelé leur conception de la laïcité. Les historiens ont insisté sur le rôle joué à cet égard dans le cas de la France, par exemple par Philippe le Bel ou par le gallicanisme, un mot qui s'installe au XIXe siècle pour désigner une chose qui remontait à plusieurs siècles. Sous l'effet de leur histoire particulière, certains pays reconnaissent une religion d'État, comme le Royaume-Uni aujourd'hui ou la Suède, naguère encore. D'autres non, comme la France ou les États-Unis. Mais c'est évidemment la philosophie du XVIIIe siècle, les convulsions de la Révolution française et le positivisme qui ont à l'origine affecté au premier chef la conception française de la laïcité. Bref, Il existe plusieurs manières de mettre en œuvre le principe de laïcité et elles ont été déterminées par les contingences et les particularités des histoires nationales, mais le principe lui-même est admis dans tous les pays occidentaux. Tous reconnaissent le caractère imprescriptible de la séparation entre les pouvoirs spirituels et temporels, et tous connaissent les évolutions annoncées par Tocqueville et Durkheim. On y observe effectivement partout, sinon le retour du religieux qu'on évoque un peu trop rapidement peut-être, du moins une incontestable présence des religions traditionnelles et en même temps une tendance à l'éclatement, à la privatisation et à l'immanentisation des croyances religieuses. Ces évolutions expliquent qu'on observe un dépérissement de la conception de la laïcité qui a prévalu en France sous la Troisième République au profit d'une conception libérale. Alors que la laïcité traditionnelle se définissait négativement par la séparation des Églises et de l'État, la laïcité libérale se définit aussi positivement. Elle invite l'autorité publique à prendre les mesures permettant de rendre possible l'exercice, dans le respect des lois, bien évidemment, de la liberté de conscience et de culte. Sans doute, cette évolution résulte-t-elle pour une part des diverses conventions internationales de protection des droits de l'homme adoptées dans les dernières décennies, conventions auxquelles la France a adhéré. La Convention européenne des droits de l'homme, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, le Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques. L'article 9, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme illustre parfaitement cette évolution. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Mais il faut voir qu'un texte comme celui-là ne fait qu'exprimer l'évolution générale si bien décrite par Tocqueville et Durkheim. Il enregistre et légitime cette évolution bien plus qu'il ne la crée. C'est aussi cette évolution qui explique le fait mineur qui n'a pas échappé à l'attention des Parisiens sur lequel je conclurai, à savoir que lors de la rénovation récente de la place de la Sorbonne, on a décidé de reléguer la statue d'Auguste Comte sur le côté, afin sans doute qu'elle ne coupe plus la vue sur la chapelle. Merci.
C'était l'allocution de Raymond Boudon, sociologue et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, sur le thème « Laïcité et modernité, les deux visions françaises ». Pour conclure cette séance de clôture des célébrations du centenaire de la loi 1905, le ministre Pascal Clément, en tant que représentant du gouvernement et garde des Sceaux, a proposé une vision d'ensemble de la question de la laïcité, une vision qui résume donc l'action du gouvernement de Dominique de Villepin sur le champ de la laïcité. Voici donc le ministre de la Justice, Pascal Clément.
La France est un pays où il est courant de célébrer l'anniversaire d'une loi. Je ne crois pas que cette pratique soit si fréquente à l'étranger. Elle témoigne de l'attachement des Français à la République, à sa capacité à réguler les passions, à leur souhait de se construire un avenir commun. Et tout au long de cette année, l'Académie des sciences morales et politiques a coordonné une réflexion sur l'actualité de la laïcité et ses enjeux. 4 colloques ont été organisés, ponctués par 2 séances solennelles. Une fois de plus, le sérieux et l'indépendance intellectuelle de l'Académie se sont manifestés, mobilisant tous les courants de pensée, les représentants de chaque religion et des institutions concernées. Au nom du président de la République, qui m'a chargé de le représenter devant vous, je voudrais féliciter l'Académie des sciences morales et politiques. Elle a été fidèle à sa mission, chacun de ses membres en est témoin. Un débat public a eu lieu, il a permis la promotion de la liberté de conscience, ainsi que le respect des opinions et des croyances. Au fond, le travail de mémoire de la laïcité a été conforme à son objet. Mais une commémoration n'est pas un panégyrique. Un centenaire n'est pas seulement l'occasion de restituer l'héritage de la construction de la nation française, dont la laïcité est une étape. Il est aussi le moment privilégié de s'interroger sur la pertinence du modèle français. Cette opportunité a été saisie, mais les critiques ou les pistes évoquées n'ont jamais remis en cause le principe de la séparation de l'Église et de l'État ou la tolérance en tant que valeur fondamentale de la société française. Une conclusion assez unanime s'impose. La laïcité est une composante essentielle du modèle français et elle ne signifie plus que la République et la religion soient incompatibles. Cette ouverture nouvelle exige des pouvoirs publics et de tous les Français une mobilisation sans faille pour faire respecter la laïcité. Le modèle français est inséparable de la laïcité. Il n'est pas inutile de le rappeler, car cette idée ne doit pas être banalisée. La conquête des droits de l'homme et du citoyen en 1789 a permis de proclamer avec force la liberté religieuse. L'article 10 de sa déclaration dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Jamais ce texte fondateur de notre histoire n'a été aussi pertinent. Ce texte doit nous rendre fiers, fiers de notre héritage, fiers de notre modèle, fiers de notre diversité. Fiers de notre héritage, car la laïcité est ancrée dans l'histoire de la République. Le président André Damien en a retracé les origines avec sagacité et brio. Bien entendu, la construction du modèle français a pu être source de division. Émile Combes ne déclarait-il pas en 1903 « L'ennemi de la religion, c'est le ministre du culte ». Si les mémoires familiales ont oublié les circonstances de la loi de 1905, l'histoire de la querelle scolaire et de ses multiples péripéties est encore bien présente. La guerre froide des deux France a été une réalité. Ces divisions sont cependant derrière nous et il nous faut constater que les grandes religions monothéistes sont elles-mêmes désormais attachées au principe de laïcité. Car la France a toujours eu comme volonté d'assurer la coexistence des Français par le pacte républicain sans exclusive, sans exclusion. Dans notre pays passionné, la laïcité est un facteur nécessaire de notre vie en commun. Elle est un instrument de paix sociale, séparant de manière exigeante la sphère privée de la sphère publique. Le tempérament français pousse à s'enflammer. La laïcité permet d'apaiser les relations entre les Français. Qui d'autre qu'Aristide Briand pourrait résumer l'esprit de la laïcité ? Il fallait que la séparation ne donnât pas le signal des luttes confessionnelles. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissa la faculté de s'exprimer librement, déclarait-il en présentant le projet de loi à la Chambre des députés. C'est donc l'esprit de Voltaire, défenseur de Calas, qui anime la laïcité française. Ce n'est pas l'utopie de la construction d'un homme nouveau, apôtre martial de la raison, inspiré des premiers temps de la République, à l'époque où elle était encore dans l'enfance. Un siècle plus tard, le gouvernement ne saurait décrire en d'autres termes sa conception libérale de la laïcité. Vous l'avez rappelé au cours de votre troisième colloque. La laïcité à la française est plus qu'une singularité, elle est un modèle original. Dans le financement des cultes, dans leur expression publique, dans l'organisation de l'école, dans la représentation des religions auprès des pouvoirs publics, la France a élaboré des solutions qui lui sont propres. Vous avez montré au cours des précédents colloques que la laïcité était une notion souvent inconnue à l'étranger et que même les pays qui se déclarent laïcs en ont une approche différente. Le bilan de la laïcité nous impose également de reconnaître que la République et les religions se sont réconciliées. Elles ont trouvé progressivement un modus vivendi. Les Églises ne sont plus les adversaires de la République, mais ses partenaires dans le respect du principe de laïcité. La République reconnaît les religions, elle ne les ignore pas. Elle les consulte, elle les associe, elle leur fournit même une aide dans la recherche de leur lieu de culte. En ce début d'hiver, elle reconnaît la mobilisation des catholiques, dont la préoccupation sociale n'est plus approuvée en faveur des déshérités. Elle conserve également ses régimes particuliers en Outre-mer, en Alsace-Moselle, comme l'a montré avec humour M. Pierre Miesmer. Au cours de cette année, vous en avez montré les particularités, parfois insoupçonnées. Rappelons-le avec force, il ne s'agit pas d'une entorse au principe d'égalité, mais de traditions locales éminemment respectables. Jamais ces régimes propres ne sont une entrave à l'universalisme républicain. Car la laïcité ne nous empêche pas d'être fiers de notre diversité. La France assume sa diversité de croyances, sa diversité religieuse, sa diversité culturelle. En effet, la laïcité est devenue un instrument d'un dialogue respectueux entre l'État et les Églises. Je souligne ce pluriel à dessein. Le régime du Concordat antérieur à 1905 reconnaissait déjà 4 cultes. Celui de la majorité des Français, le culte catholique, le culte réformé, le culte luthérien et le culte israélite. L'Empire faisait, à l'époque de la France, le protecteur des musulmans. Le maréchal Lyautey prônait dans ses mandats l'ouverture au monde musulman. Il fut d'ailleurs l'initiateur de la Grande Mosquée de Paris. Depuis, la religion musulmane est devenue la deuxième religion française. Avec ses spécificités, le culte musulman s'est vu reconnaître la place qui est la sienne. La création du Conseil français du culte musulman est à cet égard une étape majeure. Ainsi représenté, avec l'impulsion de l'État sans qu'il ne soit ingéré dans les affaires internes au culte, nos concitoyens musulmans pourront ainsi organiser les modalités pratiques liées à l'exercice de leur culte. L'exemple de la pratique religieuse dans les établissements pénitentiaires me semble significatif. Le Code de procédure pénale consacre au sein de la détention le principe fondamental de la liberté religieuse. Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Toute nouvelle construction d'établissement pénitentiaire prévoit la création d'une salle polycultuelle. Elle est réservée à la pratique des différentes confessions. Elles sont partagées entre les différentes aumôneries. L'administration pénitentiaire agrée et rémunère 900 aumôniers, dont 66 aumôniers musulmans. J'ai nommé récemment un aumônier national des prisons musulmans en accord avec le Conseil français du culte musulman. C'est la reconnaissance de la liberté religieuse pour tous les détenus que j'ai ainsi voulu manifester. C'est sur le fondement de la loi de 1905 que cette évolution a été possible. Elle serait même adaptée à l'évolution de la population française. Ces modalités pratiques sont des enjeux réels pour chacune des Églises. Il serait vain d'ignorer non plus les difficultés d'autres religions. Je pense en particulier aux branches des Églises protestantes les plus dynamiques ou aux catholiques qui recherchent des lieux de culte dans les villes nouvelles. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Intérieur chargé des cultes veille au respect de la laïcité et donc au refus de toute discrimination. Cette ouverture nouvelle exige des pouvoirs publics et de tous les Français une mobilisation sans faille pour faire respecter la laïcité. Pour faire respecter la laïcité, c'est avant tout garantir le principe de neutralité. L'année précédant la commémoration de la loi du 1905 a vu naître la loi du 15 mars 2004, relative à l'application de la laïcité dans les services publics. Le vide juridique existant dans les écoles, les collèges et les lycées publics avait entraîné des comportements incompatibles avec les valeurs républicaines. L'interdiction du port de signes et de tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse s'inscrit dans la droite ligne de la loi de 1905. La loi nouvelle réaffirme la neutralité de l'espace public sans interdire l'appartenance discrète à une religion. Car la République ne peut que rejeter les divisions, les règles particulières, la discrimination, elle ne peut que refuser le communautarisme. Le repli sur son identité, qu'elle soit religieuse ou autre, est la négation de nos valeurs communes. On ne peut être catholique, musulman ou juif, puis français. Oublier ce fondement de la République, c'est ouvrir la porte à des revendications qui conduiraient à séparer les Français. C'est pourquoi la République n'accepte pas non plus la séparation des hommes et des femmes dans des activités sportives ou dans la vie quotidienne. C'est pourquoi l'hôpital refuse également qu'un patient s'adresse exclusivement à un médecin de son sexe. C'est pourquoi la justice condamne avec fermeté toute discrimination qui serait fondée sur l'origine ou sur la religion. Dans ce cas, elle n'hésite pas à prononcer des sanctions d'une très grande fermeté. Ce fut donc une loi nécessaire, conforme à nos engagements européens et au principe d'impartialité de l'État. Son application pacifique en témoigne aujourd'hui. Mais faire respecter la laïcité, c'est aussi lutter contre le fanatisme. Au sein de la communauté internationale, la France rejette le mythe de la guerre des civilisations, alibi de la haine entre les hommes. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique, la France a toujours combattu les assimilations inacceptables entre une religion et l'usage de la force armée. Nous avons renforcé notre arsenal législatif contre le terrorisme, mais nous avons défendu la liberté religieuse et les systèmes culturels qui nous sont différents. L'action internationale du président de la République, Jacques Chirac, en témoigne quotidiennement. La lutte contre l'antisémitisme concourt également au respect de la laïcité. Depuis mon arrivée à la chancellerie, j'accorde une très grande attention à la répression de l'antisémitisme. Il est vrai que les actes antisémites ont progressé au cours des dernières années, s'élevant à 430 en 2004. Mais la justice a fait preuve d'une très grande réactivité. Je voudrais souligner qu'en ce domaine, le taux de réponse pénale est très largement supérieur aux autres contentieux, puisqu'il s'élève à 95%. Les réponses sont en outre formulées en temps réel, dès que possible. Elles sont adaptées, y compris à l'égard des mineurs, qui sont orientés vers des stages de citoyenneté afin qu'ils comprennent la portée de leurs actes. La laïcité est un apprentissage de tolérance. Faire respecter la laïcité, c'est enfin lutter contre les phénomènes sectaires qui camouflent des intérêts matériels derrière la spiritualité. La recherche de soi a conduit des individus fragiles à confier leur avenir à des mouvements fantaisistes ou dangereux qui n'ont de religieux que le nom. Le principe de laïcité impose au pouvoir public de définir la frontière entre une religion et un groupement sectaire. Cette prérogative exceptionnelle doit s'entourer de précautions pour garantir la liberté de conscience. C'est là encore la différence entre le modèle français et le modèle américain. À l'égard des nouvelles formes de religiosité, le droit laïque doit respecter le principe de neutralité. Mais les sectes doivent également respecter le droit de la République laïque. Celui-ci permet, depuis la loi du 12 juin 2001, de sanctionner la manipulation mentale. Il permet également de sanctionner les personnes morales qui seraient impliquées dans des infractions concernant leurs adeptes. Les dérives sont contrôlées activement par les parlementaires. À l'origine de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, l'administration, dont le ministère de la Justice, observe une très grande vigilance en ce domaine. En outre, les victimes des groupements sectaires sont accueillies par des associations dont il faut saluer le dévouement. Mesdames et messieurs, la laïcité est une conquête de la République. Les religions sont un choix de vie et une espérance. Ni l'une ni les autres ne doivent s'opposer. La France a réussi à instaurer un régime équilibré autour duquel les Français peuvent se rassembler. Je souhaite donc une longue vie à la loi de 1905.
C'était l'allocution du garde des Sceaux, Pascal Clément. Son intervention concluait la séance de clôture des célébrations du centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez entendre et réécouter une sélection des 150 intervenants qui ont contribué aux 4 colloques organisés par l'Académie des sciences morales et politiques. Vous les trouverez dans la rubrique « En colloque » du site internet Canal Académie. Vous trouverez également sur notre site de très nombreuses émissions sur la loi 1905 et sur la laïcité. Il vous suffit de faire une recherche sur notre site avec la date 1905. Thank you.